Merci d'avoir choisi Europe 1, il est 22h. Tout de suite le journal, Isabelle Millet.
Bonsoir à tous, voici les titres de votre journal. Les frères Klein qui avaient revendiqué les attentats de novembre 2015 à Paris, ciblés par une frappe de la coalition internationale en Syrie. L'immeuble visé a été détruit, il est néanmoins trop tôt pour affirmer qu'ils sont morts. Les autorités françaises en tout cas restent prudentes. La douche froide à Saint-Saulve dans le nord, Altifort, le repreneur de la Syrie Ascoval, n'a pas les fonds nécessaires pour reprendre le site. Le bras de fer inédit entre l'exécutif et le législatif, Édouard Philippe dénonce une appréciation politique du Sénat au lendemain du rapport à charge de la commission d'enquête sur l'affaire Benalla. Sommet de crise au Vatican sur la pédophilie au sein de l'Église catholique. Le pape François veut frapper fort. La Ligue Europa de foot, les 16e de finale retour, et on suit en particulier ce soir le club de Rennes qui joue en Espagne face au Betis Séville. Christophe Lamarre avec une bonne première mi-temps pour Rennes.
Oui, pour l'instant ce sont les Rennais qui sont qualifiés. Ils mènent 2-1 à la deuxième période qui vient de reprendre. Les buteurs côté Rennais, Ben Sebaini et Adrien Humou, et c'est Lo Celso, l'Argentin, qui a réduit le score pour le Bétis. Mais pour l'instant, c'est Rennes qui mène 2-1.
Merci beaucoup, Christophe Lamarre, que l'on retrouvera évidemment plus longuement dans le courant de ce journal. Il n'y a pas toujours, c'est vrai, que des bonnes nouvelles dans l'actualité, mais en ce moment, au moins, on a une météo qui fait du bien au moral. Demain sera la journée la plus douce de la semaine, avec 15 degrés pour Lille, 16 pour Paris et Dijon, 18 à Caen, à Nantes, à Bourges, et plus de 20 dans le sud-ouest. Ça ira même jusqu'à 23 pour Perpignan. Prévision météo complète d'Elena Morna à la fin de ce journal. Je vous rappelle votre rendez-vous évidemment comme tous les soirs à 22h20 avec l'interview écho d'Emmanuel Duteil. Emmanuel qui reçoit ce soir Michel Biérot, le directeur exécutif de Lidl en France.
Europe 1.
Les frères Klein qui ont revendiqué les attentats de Paris ont-ils été tués ? La prudence est de mise ce soir. Une seule certitude, ils ont bien été visés par une frappe de la coalition internationale. Frappe menée, Didier François, dans le dernier bastion djihadiste en Syrie.
Oui, absolument. Il y a un renseignement d'un pays allié qui les avait localisés dans cette petite localité de Baghouz, qui est en fait le dernier bastion des djihadistes en Syrie, de l'État islamique. Et donc, une frappe a été déclenchée. Les images du drone qui a réalisé ce bombardement laissent penser que, honnêtement, les deux frères Klein ont bien été tués ou en tout cas neutralisés, c'est-à-dire soit très sérieusement blessés, soit en tout cas mis hors de combat.
Parce que le bâtiment en question est totalement détruit.
Les analyses d'images et puis quelques interceptions radio sur les activités qui ont lieu juste après la frappe. Laisse penser que la cible a été touchée. Les personnes avec qui je parle se disent quasiment sûres à 90-99%. Néanmoins, elles restent extrêmement prudentes. Enfin, en tout cas, les autorités militaires françaises font attention parce que la zone dans laquelle les frères Klein ont été frappés est toujours sous contrôle des djihadistes. Donc, aucune force occidentale à ce stade, même celles qui sont sur le terrain, n'ont capacité à les vérifier sur place. Par exemple, pour trouver des preuves matérielles de type ADN qui, là, donneraient une certitude absolue. Et puis enfin, il faut se rappeler qu'au mois de novembre dernier, il y avait déjà eu une frappe qui avait été menée contre eux là, dans une autre localité, pas très loin d'ailleurs, une localité qui s'appelle Ajim, et que bien que l'immeuble dans lequel ils étaient là pour le coup ait été détruit, finalement les frères Klein en étaient sortis indemnes, et une semaine plus tard ils réalisaient une vidéo appelant à frapper la France.
Didier, on rappelle que les frères Klein font partie des djihadistes français les plus recherchés.
Absolument, parce que ce sont les derniers Français ce sont ceux qui ont le grade le plus élevé en fait au sein de l'État islamique, et particulièrement dans deux appareils, l'appareil de propagande et l'appareil des opérations extérieures, donc ceux qui organisent les attentats. Ils sont issus, ce sont des djihadistes anciens, issus de la filière dite d'Artigat, qui était celle de Mohamed Merah. Donc c'est des gens qui sont extrêmement sérieux. Puis Fabien Klein est l'homme qui a donné sa voix à la vidéo de revendication des attentats de Paris de novembre 2015, et son frère a écrit ce qu'on appelle le Nashid, donc qui est le petit chant djihadiste qui accompagne cette vidéo.
Qu'on entend en
arrière-fond. Donc, ce sont des gens qui sont extrêmement dangereux dans la mesure où ils font partie des filières de recrutement sur la Syrie depuis très longtemps, qu'ils ont eu le temps de s'installer en Syrie et de monter au sein de l'appareil des opérations extérieures, donc des attentats, des gens capables de préparer des attentats en France. Donc, effectivement, leur neutralisation est quelque chose d'important.
Didier François, spécialiste des questions de défense à Europe 1. On a été berné, dit le ministère de l'économie. Altifort a trompé tout le monde. Altifort qui devait reprendre le site de la Syrie Ascoval à Saint-Saulve dans le Nord. On a appris en effet aujourd'hui qu'il n'avait pas les fonds nécessaires. Il n'est pas solvable. 281 emplois sont concernés. Et forcément, pour les salariés en question, cette annonce a été un coup de massue. Ils ont le sentiment de trahison. Bruno Kobzinski est le porte-parole de l'intersyndicale d'Ascoval.
C'est à la fois de la colère, parce qu'on a l'impression d'être trompé. On s'est fait mener en bateau. C'est ce que je disais tout à l'heure à mes collègues. J'ai l'impression de passer pour un clown, quoi.
À Bercy, on dit « Altifort nous a berné ». Vous avez ce sentiment-là, vous aussi ?
Bien sûr, parce que si ça se confirme qu'Altifort était informé depuis fin novembre ou décembre de sa situation financière, il ne fallait pas y aller. Il fallait nous le dire franco. Il fallait nous dire, les gars, désolé, on a préjugé de nos moyens, mais on n'y va pas. Ça nous aurait permis d'avoir un peu de temps peut-être pour réagir. On a jusqu'à mardi, mercredi, pour trouver 3 investisseurs capables d'amener 25 millions. On va tenter tout ce qui peut tenter, mais on continuera à se battre jusqu'au bout.
Le porte-parole de l'intersyndicale d'Ascoval au micro Europe 1 de Lionel Gougelot. Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France, était l'invité d'Europe 1 ce soir. C'est un dossier dans lequel il s'est beaucoup, beaucoup impliqué. Et malgré tout, il estime qu'il reste encore de l'espoir.
Première hypothèse, Ascoval trouve les financements qui lui ont été promis et qu'ils ont promis devant le tribunal. Deuxième hypothèse, nous trouvons dans les jours qui viennent un partenaire pour Altifort. Ou troisième hypothèse, nous trouvons un repreneur à la place d'Altifort.
Sur lequel ne s'était pas manifesté pendant les longs mois de conflit.
Mais pas du tout. Pas du tout. Il y a des groupes qui sont manifestés, mais qui ont été découragés à l'époque de présenter une offre. L'État aujourd'hui est partie prenante en mettant 25 millions d'euros sur la table, 12 millions d'euros sur la table apportée par la région des Hauts-de-France, 10 millions d'euros par Valenciennes Métropole. Cet argent-là, il est disponible, et cet argent-là est disponible pour le repreneur actuel comme pour tout autre repreneur à partir du moment où on nous garantit l'activité et l'emploi. Ce que je veux vous dire, c'est qu'on ne s'est pas battu pendant des mois et des mois pour ce tour de table avec les salariés pour laisser tomber à quelques jours d'une nouvelle échéance. Parce qu'il y a du boulot pour cette usine.
Voilà Xavier Bertrand, le patron de la région Hauts-de-France, qui était l'invité ce soir du grand journal de François Claus. De son côté, le constructeur automobile Ford a rejeté aujourd'hui une nouvelle offre du repreneur Punch. Ce sont 850 emplois qui sont directement menacés. Une nouvelle réunion est prévue à Bercy la semaine prochaine.
Isabelle Millet sur Europe 1.
Merci d'écouter Europe 1, il est 22h07, c'est la suite de votre journal et le jeu de ping-pong entre la commission d'enquête sur l'affaire Benalla et l'exécutif après la présentation hier du rapport sans concession qui dénonçait des dysfonctionnements au plus haut sommet de l'État. Aujourd'hui, réaction d'Édouard Philippe qui déplore l'appréciation très politique de ses conclusions. Le Premier ministre pointe le non-respect du principe de séparation des pouvoirs.
J'observe que dans les recommandations qui sont formulées par la commission d'enquête, un certain nombre concernent explicitement et exclusivement la présidence de la République et l'Élysée. J'en suis un peu surpris. Traditionnellement, les chambres ne se mêlent pas de l'organisation interne de la présidence de la République. De même d'ailleurs que la présidence de la République ne se mêle pas de l'organisation interne du Parlement. En la matière, la commission d'enquête du Sénat et le Sénat ont choisi de se livrer à une appréciation qui est, je crois, très politique. Je n'en suis pas surpris, mais comme j'ai un attachement très vif et très grand au principe de séparation des pouvoirs, j'en suis un peu déçu.
La réaction d'Édouard Philippe aujourd'hui et la réponse ce soir sur Europe 1 de Muriel Jourda, sénatrice Les Républicains du Morbihan, co-rapporteure de cette commission d'enquête du Sénat sur cette affaire Benalla. Elle réfute toute appréciation politique.
Nous nous sommes appuyés sur les auditions auxquelles nous avons procédé et qui ont été publiques, qui ont été vues par absolument tous les Français dans notre travail de contrôle. Sur les documents que nous avons demandés, sur les courriers auxquels il nous a été répondu, sur divers éléments qui ont été mis en avant par les médias et qui pouvaient être confirmés. Donc véritablement, nous avons exploité ce qui nous a été donné en toute transparence. Donc sommes-nous allés trop loin ? Nous sommes allés exactement là où ce que nous avons eu dans notre dossier nous a amené.
Muriel Jourda, co-rapporteur de la commission d'enquête du Sénat sur cette affaire Benalla. Les patrons des départements invités ce jeudi à l'Élysée, discussion dans le cadre du grand débat. Dans le même temps, l'État a annoncé l'attribution de 135 millions d'euros aux départements qui s'engagent à lutter contre la pauvreté. À l'occasion de la signature de ce pacte, Édouard Philippe a par ailleurs assumé son idée de demander des contreparties au versement d'aide sociale. Je ne crois pas du tout qu'il soit scandaleux de poser la question des droits et des devoirs, a-t-il dit. À propos du grand débat, c'est l'une des revendications phares des Gilets jaunes. Le référendum d'initiative citoyenne, le RIC, la proposition portée par les Insoumis a été rejetée aujourd'hui à l'Assemblée après plusieurs heures de débats tendus. La France insoumise accusée par la majorité de récupération politique. L'homme qui a proféré des injures antisémites le week-end dernier à l'encontre du philosophe Alain Finkielkraut, cet homme sera jugé le 29 mai à Paris. Arthur Elmbaché, sa garde à vue a été levée cet après-midi.
Alors, il est sorti vers 16h par une petite porte dérobée. Il savait que les micros et les caméras l'attendaient ici devant l'hôtel de police de Mulhouse. Il a préféré filer discrètement. Son avocat, maître André Chamy, nous a dit un mot après avoir consulté, dit-il, la petite liste de 5 ou 6 expressions à l'origine des poursuites pour injures raciales.
Ce qu'on lui reproche, c'est les propos qu'il a prononcés, entre autres, sale race, etc. Enfin, pour l'instant, il est encore abasourdi par ce qui se passe parce qu'il a l'impression de vivre un cauchemar. Pour lui, c'était une manifestation qui devait se dérouler dans un climat bon enfant. Il n'a jamais eu l'intention de commettre une quelconque infraction, et encore moins ce qui pourrait être qualifié de propos antisémites.
Même les termes sale race qui sont retenus.
Mais sale race, vous savez, alors je vous dis, vous allez kiffer votre race après ce repas, qu'est-ce que vous allez dire? C'est une phrase que tout le monde utilise maintenant, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Qui d'entre vous n'a pas entendu « j'avais kiffé ta race »
Voilà, le plus célèbre des vendeurs de portables mulhousiens sera bientôt de retour à Paris le 22 mai au tribunal.
Arthur Mbaché, correspondant d'Europe 1 en Alsace.
Le journal de la nuit avec Isabelle Millet sur Europe 1.
Il est 22h11, merci d'écouter Europe 1. C'est une réunion tout à fait inédite. 114 évêques du monde entier convoqués au Vatican par le pape François pour un sommet sur la pédophilie dans l'Église. Sommet qui doit durer jusqu'à dimanche et qui a commencé très fort. Virginie Riva, vous êtes l'envoyée spéciale d'Europe 1 à Rome. D'entrée, le pape a voulu secouer l'appareil de l'Église.
Oui, c'est très clair. Le pape a décidé de bousculer les évêques du monde entier, déjà par les témoignages qui ont été diffusés ce matin en audio, accablant pour l'Église. Des récits issus de tous les continents, comme pour leur dire que la pédophilie les concerne tous, partout. L'une de ses victimes raconte avoir été abusée par un prêtre dès l'âge de 15 ans et forcée à avorter 3 fois. Une autre victime chilienne explique que certains prêtres sont des meurtriers, des âmes, des assassins de la foi. Dans la salle, il s'en est suivi un long silence de 2 minutes. Un cardinal nous a même dit « j'avais déjà entendu des victimes, mais le fait qu'elles parlent là, devant nous tous et devant le pape, ça m'a bouleversée. Et c'est bien le but, forcer une prise de conscience. » Mais le pape le leur a aussi dit ce matin, il veut du concret, des résultats. Il leur a donc distribué un document écrit de sa main avec 21 mesures très précises issues de ses différentes consultations, révisions du droit canon, mesures d'urgence pour les victimes, bref. Il sait qu'il lui faut agir vite.
Virginie Riva, envoyée spéciale d'Europe 1 à Rome. La crise au Venezuela, l'opposant Juan Guaido, qui s'est proclamé président par intérim, est en route en ce moment avec un convoi de ses partisans à la frontière avec la Colombie pour tenter de faire entrer au Venezuela l'aide humanitaire envoyée par les États-Unis, aide qui est bloquée par l'armée fidèle au président Nicolas Maduro. Face à cette situation extrêmement tendue, Air France a décidé de suspendre momentanément ses vols à destination de Caracas pour des raisons de sécurité. Les propositions des organisateurs des JO 2024, ils demandent à ce que le breakdance, l'escalade, le surf et le skate figurent comme sport invité au programme de la compétition dans 5 ans. Idée validée par Tony Estanguet, le patron de Paris 2024, qui dit vouloir apporter une dimension plus urbaine et artistique. C'est le Comité international olympique qui doit maintenant se prononcer. Ce ne sera pas avant décembre 2020. Et on reparle de la Ligue Europa avec ce soir un club français en lice, Rennes, qui affronte le Betis Séville. Sous vos yeux, Christophe Lamar, c'est la deuxième mi-temps. Est-ce que ça va toujours pour les Rennais?
Oui, ça va toujours, mais attention parce qu'ils subissent là, depuis le début de cette deuxième période. C'est un petit peu curieux l'attitude des Rennais que l'on avait trouvé très entreprenant en première période, au contraire de Sévillans qui paraissaient un petit peu lents, un petit peu apathiques, semblant se contenter du score obtenu à l'aller. 3 partout, je le rappelle, et à ce moment-là, évidemment, ils étaient qualifiés. Et voilà que les Rennais ont fait le même coup qu'au match aller. Ils ont mené rapidement 2-0. Et puis, ils se sont à leur tour endormis, non pas sur leur laurier, mais sur ce résultat qui, effectivement, pour l'instant, les envoie en 8e de finale. Les Sévillans qui ont réduit le score par l'intermédiaire de Lo Celso, l'ancien parisien. Et voilà maintenant que depuis le début de la deuxième période, ce sont les Sévillans qui dominent et qui se sont créés au moins 2 occasions franches et qui évidemment ont dû leur salut à leur gardien Thomas Kubek. Pour l'instant toujours 2-1, c'est toujours Rennes qui est en 8e de finale, mais attention, ça pourrait ne pas durer s'ils continuent de subir, les Rennais. Quoi qu'il en soit, après bientôt 1 heure de jeu, c'est toujours Rennes qui mène ici à Séville 2-1.
Attention donc au réveil des Andalous. Merci beaucoup Christophe Lamar en direct de Séville. Et puis encore un mot pour vous parler de la sortie du dernier livre d'un auteur très apprécié des Français, David Funkinos. Son nouveau roman s'appelle Deux Sœurs. Il est publié chez Gallimard. Et c'est un livre qui tranche avec les précédents. C'est ce que nous dit en tout cas Nicolas Carreau, qui l'a lu en avant-première.
Ça commence comme une histoire de séparation classique. Mathilde et Étienne vivent heureux, en couple, aucun nuage à l'horizon. Pourtant, un jour, Étienne décide de quitter Mathilde. À partir de cette situation triste, mais banale, David Fuenquinos tire le fil et il observe son personnage se débattre dans la souffrance.
J'avais vraiment envie de parler d'une rupture amoureuse qui soit comme une dévastation, une déflagration. Et j'avais vraiment envie d'écrire l'effroi de la séparation et jusqu'où finalement... cette femme-là peut s'effriter.
Mathilde sombre doucement dans la tristesse. Sa sœur Agathe essaye de l'aider. Oui, mais Agathe est heureuse, elle, avec son mari et sa fille. Et ce spectacle, finalement, ne fait que nourrir l'aigreur de Mathilde.
Pour survivre à cet amour, elle va devoir finalement se déconnecter de qui elle était. Donc elle va changer de personnalité progressivement. Et c'est ce qui m'intéressait, c'était vraiment de voir le basculement psychologique névrotique de cette femme et de voir jusqu'où elle allait aller.
Dans ce très court roman, 170 pages, David Fuenquinos brouille les pistes et nous emmène vers une fin surprenante. Je ne vous en dis pas plus, évidemment.
Évidemment. Nicolas Carreau, spécialiste littéraire à Europe 1. Et on jette un œil tout de suite sur la météo avec vous, Elena Morna, et vous nous annoncez du soleil pour demain, mais aussi une douceur absolument remarquable. Hein.
Remarquable, c'est le mot, Isabelle. Après la fraîcheur matinale, on ira jusqu'à 23 degrés. J'ai bien dit 23 degrés, température de fin mai, alors que nous sommes en février. Et ce sera pour Perpignan, 20 à 22 degrés dans le sud-ouest. 18 à Caen, Nantes, Bourges, Marseille. On est de l'ordre de 10 à 12 degrés au-dessus des normales de saison. 17 à Brest, à Lyon, Clermont-Ferrand. 16 à Paris, 15 degrés à Lille et Besançon. Un peu moins printanier, c'est vrai, sur le nord-est, avec 14 degrés à Vesoul ou encore à Verdun. Et 12 à Strasbourg. Alors pourquoi cette différence? Tout simplement parce que ces régions resteront sous les nuages. Ce sont les seules régions privées de soleil demain. D'autres nuages bien plus gentils circuleront entre les Hauts-de-France, la Champagne, les Ardennes, la région parisienne, mais l'impression sera belle. Et puis sur le Val-de-Saône, ce sont des nuages bas qui auront bien du mal à décoller. Partout ailleurs, votre vendredi sera magnifique. Le Mistral et la Tramontane se lèveront en petite forme le matin et se renforceront l'après-midi. Et puis samedi et dimanche, plus de soleil, un peu moins doux. Allez, on va perdre 2 degrés samedi, pareil pour dimanche, au nord comme au sud. Mais l'atmosphère restera vraiment printanière.
La météo signée, Elena Morna sur Europe 1.
Europe 1.
Dans un instant, vous saurez tout sur la bourse avec Claire Lemaître de boursier.com. Juste avant l'invité éco d'Emmanuel Duteil qui reçoit ce soir Michel Biro, le directeur exécutif de Lidl en France. A tout de suite sur Europe 1.
22h, 22h30, le journal de la nuit avec Isabelle Millet sur Europe 1.
Et à 22h18 sur Europe 1, comme tous les soirs, on s'intéresse à la bourse et c'est avec vous Claire Lemaître de boursier.com. Bonsoir Claire.
Bonsoir Isabelle.
Et la séance qui a été prudente à Wall Street aujourd'hui.
Oui, les investisseurs attendent toujours d'en savoir plus sur les négociations commerciales en cours entre la Chine et les États-Unis. Alors en attendant, ça baisse ce soir, moins 0,40% à 25 851 points pour le Dow Jones. Le Nasdaq, lui, recule de 0,35% à 7 460 points. On a encore quelques publications de résultats d'entreprises. On retiendra Avis Budget. Le groupe de location de voitures a fait mieux que prévu. En fin d'année, le titre bondit de 17%. Tesla perd 3,8%. Le constructeur de voitures électriques fait les frais d'une mauvaise note lors d'un test de fiabilité pour sa berline, la Model 3. Et puis Nike recule aussi moins 1,1%. Très mauvaise publicité pour Nike. Zion Williamson, qui est considéré comme un espoir du basket américain, eh bien, il s'est blessé en jouant une de ses chaussures. Nike a éclaté pendant un match et donc le titre recule un petit peu ce soir. Les cours du pétrole ont terminé en léger repli sur le marché new-yorkais, moins 0,3%. On est à 57 $ et puis l'euro est stable. Il s'échange contre 1,1337 $.
Vous m'apprenez des choses incroyables. Une chaussure qui éclate pendant un match. À part ça, Claire, le CAC 40 termine, lui, parfaitement stable à Paris. Hein.
Oui, pas de changement pour le CAC qui est à l'équilibre. On est à 5 196 points, comme hier soir. Encore beaucoup, beaucoup de résultats d'entreprises au menu. Aujourd'hui, Vallourec, le fabricant de tubes pour l'industrie pétrolière, flambe de 24%. Vallourec propulsé par l'amélioration de ses résultats. C'est bien aussi pour Bouygues qui gagne 3,6%, de gros bénéfices pour Bouygues en 2018. Fnac Darty grimpe de 7%. Le bénéfice net a quasiment été multiplié par 4 l'an dernier. Et puis les publications sont saluées aussi pour AXA et Veolia qui s'adjugent plus de 1% ce soir.
Et d'autres entreprises sont sanctionnées après leurs résultats, comme comme par exemple Technip FMC.
Technip FMC qui a souffert d'une lourde perte au quatrième trimestre. La sanction est encore plus sévère pour Eramet, le groupe minier, qui chute de plus de 16% après ses comptes. Orange termine stable après les résultats. Et puis toujours dans le secteur des télécoms, Iliad plonge de 5,8%. La maison mère de Free est pénalisée, entre autres, par les commentaires de ses concurrents, Orange et Bouygues. Selon eux, Iliad ne leur a pas volé d'abonnés depuis le lancement de sa dernière Freebox. C'était au mois de décembre. Les marchés européens ont terminé dans le désordre. Londres gagne 0,2%, mais Francfort 7,06%. Bruxelles, -0,8%. Milan, -0,5%. Madrid, +0,1%. Et le CAC 40 est stable à 5196 points.
Eh bien, merci beaucoup pour ce tour d'horizon. Claire Lemaître de Boursier.com. Et à 22h21, il est temps de retrouver l'interview écho d'Emmanuel Duteil. Emmanuel, vous recevez ce soir le directeur exécutif de Lidl en France.
Bonsoir Michel Biro.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes directeur exécutif de Lidl en charge des achats et du marketing. Si on a eu envie de vous inviter ce soir, c'est que c'est le salon de l'agriculture qui va débuter ce week-end. C'est la cinquième fois que Lidl va être présent sur le salon. Dans un contexte où la grande distribution est très critiquée dans ses liens avec les producteurs, pourquoi vous, vous avez voulu depuis maintenant 5 ans être sur place?
C'est très simple. Quelque part, on a été... un peu précurseur sur cette loi alimentation et sur ces problématiques agricoles, parce qu'en 2015, rappelez-vous, en 2014, il y a eu les agriculteurs qui sont descendus dans les rues et ont exprimé leur colère, et à juste titre. Ils étaient et ils sont toujours à l'agonie. Quand on sait qu'un agriculteur sur 3 gagne moins de 300 euros par mois, c'est plus possible. Donc on a dit, plutôt que de payer des dégâts dans nos magasins, on va peut-être plutôt investir à rencontrer le monde agricole et à discuter et échanger avec eux pour voir comment on peut les soutenir. Et donc, on est allé au Salon de l'agriculture en 2015. C'était tendu la première fois. Je vous l'avoue, c'était tendu. Mais finalement, quand vous discutez avec les agriculteurs, vous vous mettez à leur niveau, ça se passe très bien, ça s'apaise et que vous expliquez les choses. Et c'est comme ça qu'on a commencé à lancer nos fameuses tripartites.
Voilà, donc c'est les accords que vous signez, oui. Notamment avec les producteurs. De façon, là encore, très concrète pour que nos auditeurs et nous-mêmes, on comprenne bien. Qu'est-ce qui a concrètement changé? Par exemple, qu'est-ce que vous payez aujourd'hui mieux que ce que vous faisiez avant?
Alors, déjà, ça concerne le lait, le porc et le bœuf. Les accords tripartites, on discute d'abord entre le distributeur et l'éleveur. Et c'est l'éleveur qui décide de la durée du contrat et qui décide surtout du prix. Et en général, le prix qu'il souhaite, c'est tout simplement son coût de production plus un petit mieux pour se rémunérer. Et donc, une fois qu'on a défini ce prix, on trouve ensemble un industriel qui est d'accord de rentrer dans ce partenariat. Et c'est en général ça le plus compliqué. Parce que ça veut dire que cet industriel doit jouer la totale transparence entre moi, distributeur, et l'éleveur. Et ils ne sont pas toujours d'accord. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je n'ai pas 100% de mon porc ou 100% de mon lait.
Aujourd'hui? Je crois que sur le lait, vous n'êtes pas très loin des 100% malgré
tout. Alors non, j'ai 100% de lait français.
D'accord.
Et l'objectif encore cette année dans le salon 2019, c'est d'avoir une tripartite à proposer à chacun des clients dans les 1500 points de vente de Lidl en France. Donc dans le lait, c'est le cas. Le porc, il me manque encore 200-300 magasins et le bœuf encore 400-500 magasins.
Mais de façon très concrète, grâce à cela, ça n'augmente pas le prix pour le consommateur au bout du bout parce que vous faites un petit effort, vous réduisez votre marge. Le producteur vit un petit peu moins mal, puisqu'on ne peut pas dire qu'il vive encore très bien. Et l'industriel au milieu essaye de ne pas prendre trop de sous au passage. On est d'accord, c'est ça l'idée?
Oui, c'est ça l'idée. Le producteur, il n'est plus la variable d'ajustement. C'est-à-dire qu'il a son coût de revient, il est couvert. Et après, moi, je continue quand même la négo entre l'industriel et moi-même. Parce que c'est ça le partage de la valeur. Donc moi, je continuerai toujours à discuter le bout de gras, entre guillemets, entre l'industriel et moi-même.
Et le bout de gras, vous le négociez beaucoup, puisque que ce soit au-delà des producteurs, vous, comme tous les autres distributeurs, chaque année, on entend dire que vous tordez le bras et des producteurs et des industriels. Pourquoi vous êtes si méchants, vous et les autres, hein?
Alors, moi, j'ai pas l'impression... Alors, il y a une guerre des prix. Déjà, chez Lidl, on est très atypique. On ne fait que 10% de marques nationales, les grandes marques que tout le monde connaît. Et 90% de notre assortiment sont des marques de distributeurs, c'est-à-dire c'est des marques qui nous appartiennent. On en fait ce qu'on veut. Mais, par exemple, sur le lait, je n'ai pas des grandes marques comme Lactel ou Candia. Donc je ne peux pas faire des promotions complètement hallucinantes que font certains autres qui sont dans la guerre des prix, qui est destructeur de valeur. Moi, j'ai envie de dire le juste prix toute l'année. Donc je vends 72 centimes mon litre de lait. quand des grandes marques vont le casser à 59, ce qui est une hérésie pour le producteur.
Mais j'ai lu justement une interview de votre patron, parce que je rappelle que vous êtes directeur exécutif, oui. Il y a une espèce de groupement Comex qui dirige Lidl, et j'ai vu qu'il disait « il faut que nous arrivions absolument à aider le client à reconnaître la qualité de produits qui ne sont pas de marque ». C'est ça aujourd'hui le plus dur, à leur dire, on peut citer un Nutella, Coca ou autre, il faut leur dire que tel produit que vous vendez par exemple chez vous qui n'a pas cette marque, est aussi bon ou a autant d'intérêt ?
Le marché français est très particulier en Europe. Les consommateurs français ne jurent que par les marques parce que depuis tout petit, les grandes marques nationales, à travers leur marketing puissant, essayent de nous faire croire que leurs produits sont les meilleurs du monde. Et pire encore, le français, quand un bidon d'Ariel coûte moins de 6-7 euros, il ne l'achète plus parce qu'il se dit « il y a un loup, il ne doit plus laver aussi bien le bidon d'Ariel ».
C'est vrai ça, vous l'avez vraiment vérifié dans
vos ventes ? Bien sûr, bien sûr. Et donc, comme le disait notre président, notre rêve, c'est ce qu'on essaie de faire tous les jours. D'ailleurs, on va lancer, vous allez voir, une campagne pour faire goûter aux consommateurs.
Ça veut dire vous allez dans les magasins directement, si vous allez ouvrir des stands.
Le consommateur, quand il ne connaît pas, il dit « c'est pas bon ». Quand c'est pas cher, c'est pas bon. Ça, c'est la mentalité française. Nous, on veut démontrer qu'on peut avoir des produits très qualitatifs qui n'ont absolument rien à envier aux marques nationales, tout en ayant des prix compétitifs grâce à nos optimisations logistiques.
Et tout en rémunérant tout le monde à peu près correctement.
Exactement. Si on partage, on peut rémunérer. Je l'ai démontré depuis 4 ans qu'on peut rémunérer des éleveurs de porc, des éleveurs de bœuf très correctement. Et nous, tout va bien pour Lidl, on n'est pas mort.
Du coup, plusieurs études montrent que dans la grande distribution au global, à cause ou grâce à la loi alimentation, les prix de ces grandes marques nationales ont progressé d'environ 4% depuis début février, mise en place de la loi. Puisque pour faire très simple, aujourd'hui, vous n'avez plus le droit sur les produits alimentaires de faire des promotions genre un acheté, un offert. Chez vous, aujourd'hui, les prix ont du coup moins augmenté que ça parce que vous n'avez que 10% de marque nationale ?
Tout à fait. C'est-à-dire que chez nous, alors le 4%, je le confirme, en moyenne, mais on parle d'une petite centaine de produits, 100 produits. Donc pour le panier de la ménagère qui vient faire ses courses chez Lidl, il n'y a quasi pas de différence. On parle de quelques centimes sur un paquet de chips, plus sur une bouteille de pastis, je suis tout à fait d'accord, mais c'est moins d'une centaine de produits. Quand chez les autres, on parle de 4000, 5000 références. Donc effectivement, ils sont plus impactés. Concernant les promos, l'encadrement des promos, ça ne me concerne pas, étant donné que je n'ai jamais fait de promo au-dessus de 30%. Pourquoi ? Là encore, quand vous avez des marques de distributeurs, quasi exclusivement, chaque fois que vous faites une promo, c'est votre marge. Il n'y a pas de plan d'affaires comme il y a chez les marques nationales. Et ça, c'est la grande différence.
On va enfin terminer par l'impact des gilets jaunes, puisque la grande distribution dans son ensemble a été ciblée par les gilets jaunes. Chez vous, vous avez eu un impact fort ou pas de ce mouvement? Parce que vous avez quand même pas mal de magasins qui sont aussi en périphérie des villes.
On a eu un impact fort positif. C'est-à-dire qu'on a fait, énormément de chiffres pendant la période fin novembre-décembre, qui était la période dure des gilets jaunes, parce que je pense qu'on est des magasins de proximité. Il y a un magasin Lidl à moins de 10 km de chacun des Français. Et donc, du coup, on était moins touchés par les blocages. Et donc, on a gagné, je crois, d'après Kantar, 400 000 nouveaux clients sur le mois de décembre.
C'est peut-être le but aussi de la campagne de com' que vous faites, garder ces nouveaux clients. En tout cas, merci d'être passé ce soir par les studios d'Europe 1. Michel Biraud, directeur exécutif de Lidl, en charge des achats et du marketing, était notre invité. On se retrouve demain, 22h20.
Merci à vous, Emmanuel Dutheil. Et dans un instant, on jette un œil sur les unes de vos quotidiens. Quelles sont les informations que nos confrères de la presse écrite ont choisi de mettre en avant. Et voici ce que vous découvrirez demain matin dans vos quotidiens. Alors que le Salon de l'Agriculture s'ouvre samedi, plusieurs journaux consacrent leur une demain à nos agriculteurs, notamment l'Opinion qui nous dit que la France n'épargne pas son agriculture. Pourtant, nos productions, leur sécurité, leur qualité et leur variété font rêver le monde entier qui aimerait bien s'asseoir à notre table. Pourquoi l'agriculture française se redresse, titre Les Échos. La conjoncture est meilleure pour la plupart des productions nationales. Si l'on fait abstraction du sucre, qui est en pleine crise, le redressement de la plupart des productions est incontestable. Dans la crise des paysans, les paysans ont le soutien des Français. C'est ce que nous dit Le Figaro. 95% d'entre eux ont une bonne opinion du métier d'agriculteur. Cette année encore, le Salon de l'Agriculture devrait attirer beaucoup de monde. Mais derrière cette façade, le monde agricole français continue de souffrir de difficultés économiques, d'une défiance de la société civile vis-à-vis des techniques de production et d'un sentiment de solitude. À lire également dans La Croix, l'eurodéputé José Bové et la présidente de la FNSEA, Christiane Lambert, qui confrontent leur vision de l'agriculture. européenne. Et pourtant, il peut gagner. C'est à la une demain du journal Libération qui affiche une photo, celle d'Emmanuel Macron, plus impopulaire que jamais il y a encore quelques semaines. Le président pourrait sortir en tête des urnes au mois de mai. Libération décrypte la stratégie d'Emmanuel Macron. À Saint-Saulve, dans le Nord, les contes de fées finissent mal, écrit Laura Berny dans Les Échos. Le petit carrosse Altifor s'est transformé en citrouille, laissant sur le carreau les 281 salariés de l'acierie Ascoval. Le modeste groupe franco-belge qui devait apporter 35 millions d'euros et prendre les clés de l'usine début février a finalement fait faux bond. On en parlait tout à l'heure dans le journal. Cet automne et jusqu'à la veille de Noël, le dossier, devenu hautement politique, avait pourtant mobilisé les élus locaux et le ministère de l'économie. D'aucuns penseront que tout cela n'était finalement que de la poudre de perlimpinpin. Dans tous les cas, pour les salariés de l'acierie, c'est le retour de l'incertitude. Et voilà donc pour ce tour d'horizon rapide des unes de la presse que vous retrouverez dans vos kiosques demain matin. Et si vous le voulez bien, on va faire un nouveau détour par Séville pour les 16e de finale. Retour de la Ligue Europa, Betis Séville face à Rennes. Christophe Lamar, pour l'instant, ça tient toujours pour Rennes?
Oui, ça tient toujours pour Rennes, mais c'est quand même compliqué. Hein, même si Bourigo, à la 70e, a eu l'occasion, pourquoi pas, de tuer la rencontre, en tout cas de tuer tout suspense. Mais dans la cage, Joël Robles a boxé cette frappe qui venait très vite depuis les 25 mètres. Et il reste donc maintenant 13 minutes, même s'il y aura probablement pas mal de temps additionnel. Pourquoi? Parce que les Rennais ont tendance à vouloir manger le chrono. Alors l'un se plaint de crampes, le gardien lui évidemment, Thomas Kubek, attend que le bloc équipe remonte, que les joueurs regagnent jusqu'au milieu de terrain, jusqu'à la ligne médiane et puissent décider enfin à dégager. Et évidemment sous la bronca des 44 000 spectateurs qui sont là majoritairement, même s'il y a quand même 2700 Rennais qui ont fait le déplacement, c'est à signaler. Et pour l'instant, Rennes qui tient sa performance. On va quand même pas parler d'exploit parce qu'après tout, le Betis Séville n'est que 8e de la Liga, mais ce serait quand même une sacrée perf que d'aller se qualifier après avoir fait match nul 3 partout chez soi. Pour l'instant, eh bien écoutez, les Rennais, ils tiennent le choc, 2 buts à 1. Il reste 12 minutes à jouer dans le temps réglementaire.
Des minutes qui vont être en effet très longues. Merci beaucoup Christophe Lamar en direct de Séville et je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute d'Europe 1 en compagnie de Sophie Peters pour la Libre Antenne.